Amen. Nous vivons des temps troubles. Nous vivons des temps troublants. Nous vivons des temps compliqués. Le monde, comme je le disais déjà dimanche, va de pire en pire. On voit, on assiste à des choses qu'on se disait impossibles il y a quelque temps. Et malheureusement, ça va s'empirant. Et de quelle manière pouvons-nous faire face à la situation? De quelle manière devons-nous prier? Comment devons-nous nous préparer? Comment devons-nous agir? Tant de questions qui reviennent au peuple de Dieu. Parce que je crois que le peuple de Dieu a aussi son rôle et il doit l'accomplir. Le Seigneur nous a laissé pour être la lumière, pour être aussi le sel, pour être aussi des témoins. Alors j'aimerais ce soir nous encourager à affermir notre cœur dans le Seigneur, à affermir nos cœurs dans l'avènement du Seigneur, puisqu'il est proche. Je vous propose de faire quelques lectures ensemble. La première se trouve dans Jacques chapitre 5, les versets 7 à 8. Jacques chapitre 5, les versets 7 au verset 8. Prenez donc patience, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi prenez patience, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Je lisais ce texte ce matin dans mon temps personnel de méditation. Je me disais, Seigneur, quel exemple merveilleux qui est celui du laboureur qui attend. Et si nous sommes toujours dans cette attente, ô combien Dieu attend aussi que nous soyons prêts. La parole de Dieu nous dit que Dieu fait preuve de patience. Néanmoins, il est question pour nous de recevoir ce que Dieu a prévu, la pluie de la première et de l'arrière-saison, sans laquelle nous ne serons pas arrivés à maturation. Pour autant, il dit, vous aussi, prenez patience. Êtes-vous patient? Faisons-nous preuve de patience dans les différentes situations, circonstances, même voir les épreuves. Sommes-nous patients dans l'épreuve? On aimerait pouvoir tourner vite certaines pages, n'est-ce pas? Sortir vite de certaines épreuves, voire même pas y toucher. Si on pouvait passer entre les gouttes, on aimerait bien, on aimerait autant. Pour autant, la parole de Dieu nous dit, vous aussi prenez patience, et nous dit comment? Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alors, comment affermir notre cœur? J'ai continué un peu mon pèlerinage dans la parole de Dieu à chercher les textes et me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux encore ce soir nous partager? Et j'ai trouvé quelques points à partager ensemble. Le premier point se trouve en 2 Chroniques, chapitre 5, les versets 13 à 14. Il est question pour nous, pour affermir en notre cœur, adorer le Seigneur. Il n'y a pas mieux, n'est-ce pas? Je dirais que c'est ce qui devrait caractériser chaque enfant de Dieu. C'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser comme des sujets, de dire, Seigneur, il y a ça qui ne va pas, ça qui ne va pas, ça qui ne va pas. Mais moi, je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, commence par louer Dieu. Au lieu de faire la liste de ce qui ne va pas, commence par ce qui va. Et ce qui va, c'est ce qui va à l'éternel. Il dit le texte de 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. « Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour louer et célébrer l'éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'éternel par ses paroles, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. » Ce n'est pas un moment. Ce n'est pas un instant, ce n'est pas une saison, c'est à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Si on commence notre journée, si on commence à louer le Seigneur, à l'adorer, ce qui peut en découler, ce qui peut finalement amener nos cœurs à être affermis, c'est que la gloire de l'Éternel remplisse notre cœur. Et lorsque la gloire de l'Éternel remplit notre cœur, tout le reste n'a pas de place. Combien est important pour nous d'apprendre à nous unir, dit le texte, d'un même accord pour louer et célébrer le Seigneur. N'est-ce pas? Que la voix des enfants de Dieu puisse retentir dans les quartiers, dans les villes, et que les hommes et les femmes qui nous entourent, qui connaissent que le désespoir, puissent entendre parler de l'espérance qui est en Jésus-Christ. Et que nos cœurs, au lieu de broyer du noir, au lieu d'apporter tout simplement ou répéter ce qu'on peut entendre au journal, même si c'est des événements vrais, reste le fait que nous avons une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Alors la première chose pour affermir notre cœur, c'est adorer le Seigneur. Peut-être que le matin tu te lèves et tu vois déjà la liste des épreuves, des difficultés, des problèmes, des factures à régler. Je vais te dire une chose, commence par louer le Seigneur, tu verras que Dieu va s'occuper de tout le reste. Premier point. On passe au deuxième. Il est question de travailler. N'est-ce pas? Jean chapitre 9, verset 4, il dit « Il nous faut travailler ». Jean chapitre 9, verset 4, « Tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. » Mais à ce jour, frères et sœurs, pour affermir nos cœurs, il nous faut travailler. Parce que plus on travaille pour l'œuvre de Dieu, plus on voit Dieu se manifester dans le travail qu'on accomplit. C'est tellement beau de lire des témoignages et de voir ce qui se passe dans d'autres pays. Mais moi, je me dis que ce n'est pas réservé aux autres pays. Nous avons notre part et cela dépend aussi de l'engagement qui est le nôtre, de faire l'œuvre que Dieu nous a envoyé à accomplir. Quelle est l'œuvre que Dieu t'envoie accomplir? Alors, ne me dites pas, frère, je suis retraité. Ne me dites pas, je suis femme au foyer. Parce que je crois que ces distinctions n'existent pas dans la parole de Dieu. Il nous parle d'être ouvrier avec Christ jusqu'à la fin de nos jours. Donc il n'y a pas de pré-retraite, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de moyen de se désintéresser de ce qui nous a été donné comme œuvre à accomplir, parce que la parole nous dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Quelle horreur de pouvoir finalement se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, je n'ai pas fait le travail parce que j'attendais des temps meilleurs. » Alors si tu attends des temps meilleurs pour travailler pour le Seigneur, attends toujours. Parce que quand les temps meilleurs viendront, on sera devant lui. Rien de meilleur peut arriver avant. Troisième chose qui nous amène finalement aussi à affermir nos cœurs, c'est le fait de lutter. Parce que il n'est pas question de rester passif face à ce que nous voyons ou ce que nous entendons autour de nous, mais nous avons un combat à mener. Romains chapitre 13, versets 12 à 14, il nous dit encore « La nuit est avancée, mais le jour approche. » Il y a un temps où la nuit va venir où personne ne peut travailler, mais il y a aussi ce jour qui approche, c'est le jour du Seigneur. Et il dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière, marchant honnêtement, comme en plein jour, sans excès de table, ni de boisson, ni de luxure, ni de dérèglement, sans discorde ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. » Si nous voulons affermir notre cœur, nous avons besoin de nous revêtir du Seigneur Jésus. Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous savez, il arrive des matins où on se lève et on se dit que la nuit n'a pas été facile. On est fatigué, on ne sait pas par où commencer. On regarde peut-être à la pile de travail qui est devant nous et on sent les forces s'amoindrir. On sent les forces partir, les problématiques familiales, les problématiques peut-être du travail. Il y a plein de choses qui peuvent venir. Et vous savez, l'ennemi aime charger, voire même surcharger. Mais que se passe-t-il si l'enfant de Dieu loue le Seigneur? Mais que se passe-t-il si l'enfant de Dieu travaille en disant « Seigneur, je mets ma main là où je peux aujourd'hui, je fais ce que tu me permets de faire et je travaille. » Que se passe-t-il si à un moment, finalement, on rentre dans ce combat spirituel que la parole de Dieu nous proclame et il nous demande de nous revêtir du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'à un certain moment, ce n'est plus par mes propres moyens que je vais résoudre les problèmes. Mais je vais pouvoir compter sur Jésus-Christ. Qui veut pouvoir compter sur Jésus ? Amen. Mais il est question pour nous d'accepter aussi, finalement, de nous dévêtir des choses de ce monde pour finalement nous rhabiller d'une manière différente, nous habiller et à quelque part, oui, être revêtu de la personne de Jésus-Christ. Je crois qu'on a du travail. Non ? Je crois qu'on a besoin de dire, Seigneur, par mes propres moyens, je ne sais pas comment on va faire. Dimanche après-midi, j'entendais notre frère Claude discuter avec Marcelin. Et il disait, mais c'est pas compliqué, hein. Faut prier par la foi. Et il disait, j'en ai vécu des difficultés, mais j'avance par la foi. J'en vis des difficultés, mais je témoigne à tous ceux qui sont autour de moi. Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Mais il a saisi une vérité. Et c'est vrai que plus tôt nous la saisissons, mieux nous nous portons. Nous abordons les choses d'une manière différente. Être revêtu de Christ, ça veut dire ne pas laisser à l'ennemi la possibilité de nous faire mettre des habits qui ne sont pas les nôtres, une armure qui n'est pas la nôtre. Vous voyez la référence. Il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à me préparer. Seigneur, et ne pas satisfaire les convoitises de la chair, mais à revêtir les armes de la lumière. Amen. Un autre point, c'est celui de marcher, parce qu'il n'est pas question simplement de mettre une armure si après on ne marche pas. Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11, il est question de marcher. Vous savez que le fait de marcher, c'est question de tenir aussi notre corps en bon fonctionnement, il est question d'activité. Alors, c'est des conseils qu'il nous donne pour la vie de tous les jours, mais spirituellement. Avez-vous marché aujourd'hui ? Spirituellement. Spirituellement, est-ce que nous avons fait le bout de chemin que Dieu attend qu'on fasse ? Alors, je ne dis pas, il n'y a pas un kilométrage à faire. Hein. Ce n'est pas comme dans un dit, vous devez faire tant et tant de kilomètres par jour. Non, non, c'est est-ce que tu as fait, même si c'était un pas en avant, est-ce que tu l'as fait ? Est-ce que tu as avancé dans ta marche avec le Seigneur ? Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 11, il dit, « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres. » Je vous rappelle que tout à l'heure, nous avons dit que celui qui a travaillé, le laboureur, attend le fruit de la terre. Qu'est-ce que Dieu attend de trouver dans notre vie si ce n'est aussi un fruit qui l'honore ? Souvenez-vous de la manière où Jésus a réagi envers cet arbre qui n'a pas de fruit. Il avait des feuilles, mais pas de fruit. Que le Seigneur nous donne d'être un arbre qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. C'est vrai, il y a des besoins. C'est vrai, il y a tellement de choses, on pourrait se dire. Mais on ne pourra jamais répondre à tous les besoins. Pourquoi ? Pourquoi nous mettons jamais ? Quand on parle des choses de Dieu, parfois, on met le petit, une petite prière, un petit témoignage, un petit message, hein ? Un petit moment. Et quand on parle des épreuves qui viennent, jamais. C'est trop grand, c'est trop lourd. C'est grand comme une montagne. Moi, je crois que le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. N'est-ce pas ? Et il est capable de transformer le mal en bien. Et il est question pour nous de témoigner dans notre vie de tous les jours, puisque nous nous trouvons dans un temps qui est propice à partager la parole de Dieu. Combien d'âmes aujourd'hui ont besoin d'entendre qu'il y a de l'espérance en Jésus-Christ ? Combien de personnes aspirent à avoir une parole qui puisse changer leur vie ? Je me rappelle d'un frère qui était en train de faire une campagne d'évangélisation. Il était sur l'estrade et à un moment, pendant qu'il était en train de prêcher sur cette place public, il sent dans son cœur qu'il doit faire un appel. Il fait un appel au milieu du message, au milieu de la prédication. Et en effet, il interpelle quelqu'un qui pense à s'enlever la vie. Et après, il reprend sa prédication. Et au terme du message, il y a deux personnes qui descendent. Ils étaient dans deux maisons, l'une à côté de l'autre. Et les deux personnes étaient en train de se préparer pour s'enlever la vie. Et ils sont arrivés devant l'estrade en pleurant, donnant leur cœur au Seigneur, en disant « Le Seigneur nous a donné un mot qui nous a arrêtés. Un mot de ta part. Que le Seigneur fasse que nous puissions être ces témoins qui apportent ce mot qui peut changer la vie de quelqu'un. » Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 16. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » C'est de l'activité à fond la forme, dira quelqu'un. Non seulement comme si j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. Faites tout sans murmurer ni discussion. Pour être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et en lisant ce texte, je me disais, Seigneur, il est question d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération qui est tout l'inverse. Et il est question de briller au milieu des ténèbres, mais cela fait de nous des cibles. On devient visible, on dérange. Pourquoi ? Parce que en faisant ce que le Seigneur nous demande de faire, on met en évidence ce que les autres ne font pas. Alors ne soyez pas étonnés d'être attaqués dans votre foi, mais témoignez de la parole de Dieu et ne vous inquiétez pas. Laissez le Seigneur affermir votre cœur, même dans ces moments difficiles où vous vous sentez attaqué à cause de votre foi. Votre foi, elle est bonne, votre foi, elle est dans la bonne direction. Laissez Dieu agir. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Mais il est question pour nous de garder en disant « Seigneur, je sais pourquoi je dois témoigner, parce qu'il est question de briller comme un flambeau dans le monde. » Bientôt, il y a la flamme olympique qui va passer. Hein ? Alors, je ne sais pas si cette flamme, elle va voyager pendant tout le voyage allumé. À moins qu'ils ont un distributeur de gaz branché à la... Hein ? Par contre, moi, je crois que le feu que Dieu a allumé dans notre cœur doit brûler et il est nourri par notre relation avec Dieu. Et plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, plus nous risquons de briller. Il est pour nous question de dire, Seigneur, aide-nous à briller. Alors, pour briller, frères et sœurs, il n'y a pas de secret, il faut veiller. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 9. Il dira, nous dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut, car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quoi qu'il arrive, mon frère, ma sœur, voilà ce à quoi Dieu t'a appelé. Oui, mais je ne suis pas parfait. Tu ne l'as jamais été, moi non plus. La perfection, on la connaîtra juste au moment où le Seigneur, dans les airs, il nous changera et nous donnera une nouvelle nature. Mais pour l'instant, nous sommes avec nos imperfections et malgré nos imperfections, Dieu nous aime. Et Dieu nous cherche et il nous a appelés et nous a destinés non pas à la colère, parce que la colère, c'est Christ qui l'a prise à notre place à la croix en donnant sa vie. Mais il nous a appelés à avoir cette possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur pour nous de pouvoir un jour nous présenter devant le Seigneur et de dire, Seigneur, je suis là, sauvé par grâce. Seigneur, sauvé par grâce. Presque ça devrait être notre manière de nous saluer, sauvé par grâce. Parce que le Seigneur fait cette œuvre et continue de la faire dans sa bonté, dans sa miséricorde, jour après jour. Alors, adorer, travailler, lutter, marcher, témoigner, veiller Et je me suis dit, Seigneur, il faut aussi du repos de temps en temps. Non ? Alors le dernier, c'est le repos. Et il fait partie des choses que nous avons besoin pour affermir notre cœur. Ésaïe 30, 15 dira, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. » Si tu veux que ton cœur s'affermisse dans le Seigneur, tu as besoin de rentrer dans le repos de Dieu. Tu as besoin finalement de connaître cette espérance et cette paix que le Seigneur nous donne, même s'il y a des circonstances qui sont difficiles, rentre dans le repos du Seigneur. Ce sera ton salut, ce sera celui qui va veiller sur toi. Et c'est dans le calme et la confiance qui sera votre force. J'aimerais terminer avec ce texte d'Hébreux, chapitre 4, versets 10 à 16. Toujours en ce qui concerne le repos. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et les juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Je suis sûr que parmi ces 7 points, il y a quelque chose qui nous concerne particulièrement. Peut-être les 7, mais peut-être tout simplement ce dernier point de dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi avec assurance afin d'obtenir miséricorde, grâce. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Et oui, Seigneur, je veux me garder dans le calme et la confiance. Ça sera cela ma force. Mais Seigneur, avant tout, je veux revenir à Dieu et au repos que lui seul peut me donner. » Amen. On veut incliner nos têtes et on veut encore dire au Seigneur, « Seigneur, répands ton esprit sur notre vie. Répands ta grâce, Seigneur. » Seigneur, au-delà des points que nous pouvons citer, Seigneur, il y a une réalité spirituelle qui est celle que, Seigneur, tu attends de nous que nous soyons ces cœurs qui recherchent, ces cœurs qui désirent, Seigneur, être affermi en toi, affermi par ta parole, affermi, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit, affermi aussi, Seigneur, par la marche. Nous voulons marcher avec toi, nous ne voulons pas rester, Seigneur, immobile, en attendant, mais nous voulons être trouvés, Seigneur, à l'ouvrage. Seigneur, merci, merci pour ta parole, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci aussi de comprendre, Seigneur, Seigneur, nos défaillances. Seigneur, tu compatis à nos défauts. Tu pourrais nous juger, tu pourrais nous détruire. Et pourtant, tu uses encore de patience. Comment ne pas te dire encore merci ce soir? Merci pour le secours que tu accordes à tous ceux et celles qui s'approchent de toi avec un cœur sincère. Ô Éternel, que ta parole puisse encore ce soir produire en chacun de nous, Seigneur, ce pour laquelle tu l'as envoyé, Seigneur. Que ce texte que nous venons de partager puisse prendre, Seigneur, donner en nous une lumière différente, que nous puissions les saisir d'une manière personnelle, intime, Seigneur, forte, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Et merci surtout pour notre Sauveur Jésus-Christ, à qui nous voulons rendre un culte qui lui soit convenable, un culte qui lui convienne, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour l'œuvre du Saint-Esprit. Embrase nos cœurs, Seigneur. Fais-nous briller au milieu de cette génération qui vit dans les ténèbres, Seigneur. Et que nous puissions voir ta gloire s'accomplir dans les besoins, Seigneur, qui touchent le cœur de ceux et celles qui nous confient leurs difficultés, leurs épreuves, Seigneur. Merci parce que tu viens au secours de ceux qui sont dans les hôpitaux, de ceux qui sont, Seigneur, dans l'impossibilité d'être là ce soir. Béni soit ton nom. À toi, honneur et gloire. Amen. Allez.